Oui, c'est sans détour et ça achève, voilà, on est à la dernière demi-heure de la dernière émission de la saison et on a parlé de voyage et de plein air. Alors, quand on parle de voyage, on parle de revue de presse avec façon de parler avec notre collègue Esther Hardy. Bonjour Esther.
Bonjour François, encore un petit tour du monde, hein?
Oui, voilà, et on commence à New York.
Oui, à New York, en fait, c'est un témoignage. Les personnes handicapées doivent se faire entendre de plus en plus fort. C'est ce que dit Nicolas Herd, qui est un militant de l'Arche Canada, donc qui fait partie d'une organisation internationale à but non lucratif œuvrant pour l'inclusion des personnes atteintes de déficience intellectuelle. Donc, il a participé à la
Oui.
conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est un long nom, là.
Oui, mais c'était la 16e conférence
Voilà.
organisée par les Nations unies à New
Voilà, à
York.
New York. Donc, c'était du 14 au 16 juin. Et il est allé pour faire un témoignage. Donc, il dit de lui-même, j'ai vécu une partie de ma vie en étant confrontée à la discrimination. Lorsque j'étais jeune et que je grandissais, j'ai été victime de brimades en raison de mon handicap. Donc, on le comprend. Mais aujourd'hui, je peux utiliser cette voix, donc qui est fort de ça, celle de l'enfant que j'étais, pour me faire entendre de plus en plus fort. Je peux le crier au sommet, ici, là, à New York, à l'ONU.
Oui, parce que l'édifice de l'ONU, c'est assez haut. Mais il faut comprendre que Nicolas Hearn, là, c'est un acteur canadien. Il est de Toronto. C'est un acteur canadien qui vit avec la trisomie 21. C'est un acteur, un auteur, un activiste LGBTQ qui a fait des films et de la TV depuis plus de 20 ans.
Voilà.
Alors, c'est quand même quelqu'un qui a été bien au-delà des limites peut-être qu'on lui imposait quand il était plus jeune.
Tout à fait. Puis il dit lui-même, en fait, quand il était jeune, il trouvait ça un petit peu dommage de jamais voir des gens qui ont le syndrome de Down à la télévision, dans
Oui.
le cinéma, tout ça. Donc, il a décidé de remédier à la situation lui-même et il a fait un court-métrage d'animation qui s'appelle Free Bird. Et imaginez, François, son court-métrage est allé aux Oscars. Il a été nominé, rien de moins. Donc, il a prouvé, hors de tout doute, son pari que,
Oui,
franchement,
et
c'est
son
très
talent,
possible.
tout à fait. Ben, on va voir
Voilà.
aussi qu'est-ce qui va ressortir de cette conférence des États parties, parce que c'est une chose de signer la convention, mais c'est une autre chose de la mettre en pratique.
Oui,
Aha!
exactement.
Hein? Voilà. On traverse l'Atlantique.
Oui. En fait, des paralysés retrouvent l'usage de leurs mains grâce à des électrodes pour retrouver de la mobilité. En fait, c'est en France. Des patients tétraplégiques ont retrouvé l'usage de leurs mains grâce à des petites électrodes implantées dans leurs bras. Donc, en fait, c'est sûr que c'est des personnes qui avaient la possibilité, là. Donc, des lésions cervicales survenues chez une personne en particulier, Maxime, a provoqué une interruption de la commande entre le cerveau et
Et
les
ses mains.
muscles, voilà, sous la lésion. Donc, ces muscles ne sont pas paralysés, ils sont simplement privés d'une commande volontaire qui n'existe plus et qui va être en fait, qui va être produite via un artifice qu'est la stimulation électrique, en fait, l'appareil qu'ils ont posé finalement.
Tout ça, c'est l'œuvre du centre de rééducation Bouffard Vercelli ou Vercelli, qui est à Perpignan.
Voilà,
Hein?
en
Alors,
France.
c'est pas, comment je dis ça, c'est pas dans la grande région parisienne. Perpignan, on le sait, c'est plutôt en Occitanie. Hein?
Au
C'est dans le
sud. Oui,
sud-ouest.
voilà.
C'est dans le sud-ouest de la France. Alors, donc, c'est grâce à ces implants, le docteur Georges Fatal, qui est médecin-chef au Centre de la rééducation fonctionnelle de Bouffard-Vercelli, de l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention. C'est long, là, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un espoir. Et
Oui.
de la façon que ça fonctionne, je crois comprendre, c'est par un mouvement de l'épaule qu'on stimule les muscles de la main.
Oui, en fait, on met des électrodes directement sur les nerfs. C'est ce qui fait que la commande peut refonctionner par le muscle. Mais il faut faire le lien entre les deux. Donc, ce qui importe, selon le docteur Charles Fatal, n'est pas de retrouver leurs mains d'avant. Mais c'est parce que ça serait impossible, malheureusement. En revanche, il est important de retrouver une main utile et fonctionnelle qui permet un geste finalisé là, dans le mouvement.
Sont
Donc,
comme. Ah ben.
C'est la, la...
Mais, et on ne sera pas surpris que ça arrive à Perpignan, parce que vous savez que Perpignan est le centre de l'univers.
Ah!
Oui, mais selon... ben, enfin, le peintre surréaliste Salvador Dali, en 1965, avait créé une immense œuvre qui s'appelait « La gare de Perpignan et avait décrété que Perpignan était en fait... La gare de Perpignan était en fait le centre de l'univers et il exigeait que toutes ses toiles soient exportées à partir de Perpignan.
Ah, c'est
oui, tout à fait. Et encore aujourd'hui, à la gare de Perpignan, il y a une magnifique murale de Salvador Dali. Voilà.
On enfin, y passera ben, pour oui, aller voir
on,
ça.
On y passera, puis tout à fait, on ira l'admirer.
En attendant, je vous invite à venir faire un petit tour au Maroc.
Ah, oui.
Oui, parce que le transport aérien a quelque chose d'extrêmement nouveau. Facilitation de la mobilité des personnes en situation de handicap. En fait, il y a eu un décret publié le 25 mai dernier.
D'accord.
Le gouvernement a fixé de nouvelles normes facilitant la mobilité des personnes en situation de handicap au niveau des aéroports marocains. Pardon. Alors, en vertu de cette réglementation, des obligations sont édictées à l'intention des compagnies aériennes et des autorités aéroportaires pour faciliter la mobilité des passagers en situation de handicap ou à mobilité réduite, qui voyagent par avion depuis le Maroc ou qui arrivent
au Maroc,
et
oui.
qui se rendent, en fait, ou qui transitent même au Maroc, de la réservation jusqu'à la sortie de l'aéroport, cette catégorie de passagers doit être prise en charge de bout en bout sans aucun frais supplémentaire. J'avoue que j'applaudis. Hein?
Ben
personnellement,
oui,
je trouve
fait,
ça absolument
exactement.
Fabuleux.
Et on n'a pas le droit de refuser à un passager handicapé ou à mobilité réduite l'accès à bord.
Absolument.
Hein?
Bon, ben, absolument. C'est,
en fait, on se demande toujours, doit-on applaudir ou enfin dire, bon, mais enfin,
enfin
parce que
oui,
c'est juste normal.
Enfin!
Il faut en fait se réjouir de cette normalisation des choses, mais puis en même temps, à chaque fois qu'on se dit, pourquoi fallait-il passer par un décret pour faire quelque chose? Mais si ça fait bouger les choses, voilà.
Voilà.
En parlant de faire bouger les choses.
Oui, en fait, là, on se retrouve en Afrique, au Congo. Où est-ce que les femmes et les handicapés ainsi que... en fait, c'est une femme qui est handicapée et candidate à la présidentielle. Donc, on parle de Hortense Cavaux-Maliro, 43 ans, qui craint ni les défis ni la concurrence, qui se présente, en fait, elle a annoncé cette semaine sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Donc, il faut savoir que ce n'est pas Jojo là-bas. Il se passe beaucoup de choses, hein, on le sait, au Congo. Et le président est là depuis longtemps. Donc, elle s'attaque quand même à une grosse pointure pour pouvoir prendre sa place. Parce qu'elle dit qu'elle a toujours milité pour porter la voix des sans-voix, pour défendre les droits des personnes handicapées, pour la paix, pour l'inclusion. Donc, pour elle... C'est juste une extension de sa vocation.
De tout son, toute sa
son
vie militante.
Parcours, oui, oui, voilà. Donc, on dit que la République du Congo est un scandale géologique. Tant ses sous-sols sont riches, mais les Congolais ont une vie misérable. Donc, c'est tout ça qu'elle aimerait pouvoir changer. Il y a une révolte en elle. Et à partir de ça, elle a décidé que son handicap moteur et ses béquilles ne l'empêcheraient pas de foncer. Bon. En tant que femme, en tant que patriote, en tant que personne courageuse, ambitieuse, elle dit qu'elle pense qu'elle a une compétence à offrir. Voilà.
Bon, ben on espère que sa voix soit entendue. Hein,
tout à fait.
Au scrutin de décembre prochain, on va suivre ça de près, tout à fait, et que ça puisse créer une vague, hein, un effet d'entraînement.
On lui souhaite.
Exact.
Le Congo en a besoin.
toujours en Afrique.
Toujours en Afrique. En fait, le forum des ONG est préoccupé par l'exposition des enfants au contenu inapproprié.
Oh, oh. Oui, ben ça,
donc,
c'est,
les réseaux sociaux, c'est ça, là. Il y a un petit problème ici. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi dernier, 15 juin, la veille de la célébration de la Journée de l'enfant africain, le forum des ONG, par le biais de son président Kwaku Osei, se dit préoccupé de l'utilisation fréquente des technologies numériques par les enfants, notamment les réseaux sociaux. Et il s'explique, il dit que cet usage expose les enfants au contenu inapproprié sur les réseaux sociaux et peut entraîner des changements de comportement avec des conséquences directes. Et là, on parle d'isolement social et familial de l'enfant qui est dû à l'incitation à rester devant un écran et à visionner une succession incontrôlée de programmes et
oui.
de toutes sortes de trucs. On le sait, un facteur de trouble de comportement Entre autres, des émotions trop intenses, incontrôlées, une difficulté à gérer des traumatismes et la diminution de l'empathie. Ce n'est pas rien quand même, hein? Mais aussi et surtout le décrochage scolaire, la prise de poids et les troubles de langage.
Oh, ça fait beaucoup. On parle de perturbations du sommeil, de problèmes de la vue, oui. Bon, on a déjà parlé du fait qu'il ne fallait pas donner... Il ne fallait pas mettre un enfant de moins de 2 ans devant un écran. Ce n'est pas très bon. Mais il y a malheureusement, ça c'est une situation qui est dénoncée en Côte d'Ivoire, mais partout, on sait que les parents, oui, être parent, c'est difficile, nous en convenons. Mais souvent, comme façon de donner presque un hochet ou une sucette technologique, voilà. on plante l'enfant devant un écran. Puis là, ça le captive pendant des heures, mais c'est pas nécessairement pour son bien.
Non, c'est ça. Il faut être conscient de tout ça. En fait, le forum en question, lui, demande que les directions d'entreprises opérant dans le secteur numérique adoptent des mesures de sorte que celles-ci se conforment à leurs obligations vis-à-vis des enfants. Donc, c'est une demande...
Qu'une société de distribution numérique veuille gérer les enfants, c'est une chose, mais ça part du parent aussi qui
oui,
va simplement prendre le téléphone intelligent des mains de l'enfant puis va dire, on va aller jouer dehors.
Alors, ouais,
évidemment, ça demande un investissement de la part du parent. Là.
Ouais.
Et ça, c'est sûr que c'est pas toujours difficile, mais je dirais les conséquences navrantes de toute cette exposition, un, aux écrans à cause de la lumière bleue, deux, au contenu des médias ou des sociaux ou quoi que ce soit qu'on peut voir défiler un après l'autre, puis l'enfant n'est pas toujours conscient de ce qui se passe devant lui. Bien, tout ça, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire qu'on constate.
Non, effectivement, en fait, c'est partout, comme vous dites. D'ailleurs, à Mayenne, en France... dans la région de Mayenne, à Laval, j'ai trouvé
Laval,
ça.
Oui.
Ça
Laval,
m'a fait
France.
Sourire.
Oui, c'est ça. Hein. Il y a un Laval ici, hein. Ils en ont un, eux autres aussi.
Donc, ils ont fait un constat similaire, pardon, avec plusieurs des enseignants dans les écoles et la ville de Laval a lancé un programme éducatif pour lutter justement contre les troubles du langage chez les enfants issus de familles étrangères et en situation de précarité. Donc, on a remarqué que les derniers chiffres sont alarmants. Selon la santé publique de France, 4 à 6 % des enfants français présentent des troubles primaires du langage non liés à une pathologie.
Pathologie.
De pathologie. Oui.
La pathologie, ça, c'est uberois. Hein? On parle de... on est rendu Alfred Jarry, c'est autre chose.
Hein? On est ailleurs,
C'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit donc, mais c'est important, parce que ça veut dire que est-ce qu'on retrace ces troubles primaires du langage à l'usage d'écran ou qu'est-ce qui en serait la source?
En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les troubles sont en partie dus à la place des écrans, effectivement, qui est devenue trop importante dans le quotidien des enfants, notamment chez les moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Il faut y penser là, quand même.
Oui,
selon une étude de ELF, qui est un regroupement, qui a publié en avril 2023, un enfant de 2 ans, il passe en moyenne 56 minutes par jour, qui est déjà trop, en fait.
Oui.
Mais parmi les autres sources identifiées, il y a aussi la problématique du multilinguisme dans les familles en situation précaire.
Ah.
Ce qui arrive, c'est que trop souvent, étonnamment, les gens qui arrivent d'un autre pays qui immigrent en France, on a constaté qu'on n'apprenait pas le langage de la famille, mais on essayait tout de suite de les amener à parler français. Néanmoins, comme les parents ne sont pas nécessairement capables de le faire, ça fait en sorte que l'enfant est comme en deux choses.
Oui, il est coincé un peu.
Il est coincé.
Mmh.
On a remarqué que les enfants qui arrivent avec en âge d'apprendre la lecture, rencontrent des difficultés d'articulation et des problèmes de syntaxe.
Donc, ça, c'est en partie lié à la mouvance des parents, le fait que des gens arrivent d'une autre culture. Mais ça, ça n'a pas de rapport avec les écrans.
Non.
Mais si en plus, on leur met un écran...
Voilà, on additionne...
Peut-être qu'il va être entendu par l'enfant sur l'écran, ça peut aussi bien être en anglais. Alors là, ça va créer vraiment beaucoup, beaucoup de confusion.
Donc,
il y a une problématique qui a été identifiée à Laval. Laval, que vous serez heureuse d'apprendre que c'est une ville de l'ouest de la France, chef-lieu du département de la Mayenne, comme vous le disiez,
ouais.
À 300 km à l'ouest de Paris, 49 617 habitants au dernier recensement. Hein? C'est entre la Bretagne, l'Anjou et la Normandie.
Donc voilà. Voilà. Et, donc,
et entre le lac des Deux-Montagnes et Repentigny.
Repentigny?
Oui, entre le lac des Deux-Montagnes et Repentigny, juste au nord de la rivière des Mille-Îles, un petit peu avant la couronne nord.
D'accord. OK. En fait, l'objectif de l'organisme qui a constaté tout ça, c'est d'inciter les parents à recréer des interactions et stimuler le langage chez les enfants.
Oui.
Par leur langue d'origine.
Ah!
Voilà.
Ah,
ah, pour ensuite faciliter l'apprentissage du français.
Oh, OK.
Donc, on passe à la première étape qui est finalement apprendre le langage, puis ensuite on apprendra le français.
Après ça, on en apprendra un second.
C'est ça.
Et non pas mélanger les syntaxes.
Qui va être plus facile pour les
enfants. En parlant de langue, la langue des signes française,
oui. Maintenant
trouve une nouvelle application dans des soins.
Oui, en fait, c'est un ostéopathe qui propose des séances en langue des signes dans l'Hérault, l'Hérault étant une région de Montpellier. Donc, le monsieur en question a décidé d'apprendre la langue des signes et il propose des séances avec la langue des signes. Et il a constaté, en fait, que les personnes sourdes et malentendantes peuvent souvent se sentir exclues dans leur quotidien parce que, notamment lorsqu'ils vont à un rendez-vous médical ou de soins, trop souvent, on ne se comprend pas.
Oui, puis c'est surtout quand on parle de thérapie physique, ainsi de suite, il faut être capable d'être
très
attentif
précis,
à son corps puis d'expliquer
ouais.
Là où on a mal, quels sont nos besoins.
Donc, lui, c'est Marc Spack qui s'est formé pendant des mois pour maîtriser la langue LSF. Et il donne, en fait, des séances pour tous ceux qui en ont besoin. Puis malheureusement, il a constaté qu'il y a des demandes qui viennent partout. Lui, il se déplace, il part à vélo, puis il va voir carrément ses patients.
C'est mais il peut pas être partout. Hein. Il peut
non,
pas être
voilà.
Au feu et au moulin. Voilà.
Donc, il a constaté qu'il y avait des demandes partout en France, mais naturellement, il ne peut pas se rendre.
On espère que ce soit un geste qui se répète.
Hein? Oui,
voilà.
Tout à fait. On encourage.
On encourage. Après la pause, on vient chez nous. Voilà, on se retrouve dans la magnifique région de Montmagny.
De Montmagny. Oui, en fait, le transport collectif s'installe dans le sud de la MRC de Montmagny. Un transport collectif est adapté. De la MRC de Montmagny lance cette semaine un projet pilote rendant le transport collectif disponible pour tous les citoyens du sud de la MRC de Montmagny. En fait, c'est vraiment particulièrement pour que les gens puissent se déplacer entre les municipalités par autobus pour la somme de 5 $. Le projet inclut même des volets aide alimentaire et activité intergénérationnelle.
Oh,
en fait, le projet pilote est financé en bonne partie par le programme d'aide au transport collectif régional, la municipalité Amis des aînés, MADA, du gouvernement du Québec. Une subvention de 95 000 $ a été octroyée pour cette initiative. Donc, c'est très important. On peut ici faire le transport des gens qui vont dans des rendez-vous médicaux, en fait, n'importe où finalement. L'important est que on doit d'abord contacter le transporteur, qui est en fait, je pense, la compagnie La Pointe qui va
D'accord.
faire le transport.
Ça, parce que la région de Montmagny, il ne faut pas croire que c'est uniquement la bande de terre qui longe le fleuve. Hein. Ça
non.
va assez loin à l'intérieur des terres, jusqu'à la frontière du Maine, là, jusqu'à au magnifique village de Sainte-Lucie-de-Beauregard.
De Beauregard.
Oui, madame, Sainte-Lucie de Beauregard.
Je connais Sainte-Luce, mais pas Sainte-Lucie.
Non, Sainte-Lucie de Beauregard, ça, c'est pas loin du Maine. Quoi qu'il en soit, ben bravo pour Montmagny. Hein?
Oui, donc c'est les autobus La Pointe. Et en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment permettre aux aînés de se déplacer à leur goût, parce que souvent, s'ils n'ont pas leurs enfants disponibles pour les aider,
ben,
malheureusement,
ils sont
limités.
Coincés. Oui, puis
voilà.
C'est une région quand même qui n'est pas très densément peuplée.
Oui.
Donc, ça, c'est important.
C'est un grand apport. Il faut téléphoner, prendre rendez-vous. Et puis, il n'y a aucun problème. On va aller vous chercher.
Bon.
C'est merveilleux. Hein?
Aucun problème. Voilà un engagement qui pourrait nous suivre. Charny.
Oui.
Rive-sud du Saint-Laurent, toujours. Hein, on se rapproche un peu en amont.
C'est l'inauguration d'un plateau extérieur de réadaptation. En fait, la fondation du Centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches et le Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, toujours, ont inauguré officiellement mercredi dernier un plateau extérieur de réadaptation. La première cour extérieure de réadaptation au Québec. C'est fort intéressant.
Oui, c'est grand. Là. On parle de 10 000 mètres carrés.
10 000 mètres carrés. Donc, c'est aménagé au centre de réadaptation en question de déficience physique du secteur de Charny à Lévis.
À Lévis.
Qui va beaucoup servir, j'ose l'espérer.
Parce qu'on parle quand même d'une surface où, en fait, on essaie c'est une reproduction de la vraie vie. C'est une surface, une cour qui est aménagée avec des sentiers en gravier, en sable, en asphalte. Il y a des pentes, des trottoirs. Il y a du gazon. Toutes sortes de... il y a du mobilier urbain adapté, ainsi de suite. Et il y a toutes sortes d'objets qui reproduisent un peu...
La vie de tous les jours
dans un quartier, dans une ville. Et en même temps, ça permet à des gens qui sont soit en situation de perte de mobilité, en une déficience visuelle, de se pratiquer dans un endroit qui est clos et sécuritaire, mais en même temps, à affronter soit des surfaces, si on parle de quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ou des objets qui peuvent apparaître dans le mobilier urbain, je pense entre autres... ou les personnes qui ont un handicap visuel. Mais là, ça permet tout ça, de faire ça dehors, dans des conditions réelles, au centre de réadaptation à Lévis. Bien là, bravo. On espère que d'autres régions du Québec puissent aussi s'en doter.
S'en inspirer, n'est-ce pas?
Exact.
Oui, voilà. Donc, maintenant, dans le quartier Ville-Marie, l'organisme WECAN présente Braille, l'art au-delà du visuel. C'est une exposition d'art faite de ponts entre le public, finalement, qui est voyant, et les non-voyants, à travers l'intégration du braille et autres éléments tactiles. Vous vous rappelez, François, on en a déjà parlé, c'est des expositions qu'on voyait plutôt en Europe, mais maintenant, on sait ici.
Cette exposition-là est itinérante, car elle avait été déjà présentée à la Maison de la culture Claude Léveillé en septembre dernier.
Ah,
et maintenant, elle est à la Maison de la culture Janine Souteau.
Voilà.
Dans Ville-Marie, tout l'été, à partir du 20 juin jusqu'au 15 août.
Très accessible, car c'est à côté du métro Frontenac.
C'est tout juste à côté. C'est comme juste en arrière.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Il faut le dire. Donc, fort intéressant. Il faut aller voir ça.
Il s'agit donc d'une initiative d'artistes afro-descendants qui ont été jumelés à des artistes non-voyants dans le but de créer des œuvres intégrant du braille spécifiquement conçues pour être apprécié par des personnes ayant peu d'occasion d'interagir avec des œuvres visuelles. Alors, on va certainement aller faire un tour. On a ça pendant tout l'été.
Ouais.
La semaine dernière, c'était la journée officielle de sensibilisation à la maltraitance pour les personnes âgées.
Oui.
Il y a eu quelque chose, je pense, dans la région de Gatineau, il y en a eu... aussi un peu partout au Québec, mais entre autres, il y a encore un événement demain.
Oui, voilà. Le 20 juin, de midi à 13 heures, on a une rencontre pour mieux comprendre la vulnérabilité dans la loi de lutte contre la maltraitance au-delà du signalement. Donc,
c'est dans la région de l'Outaouais?
C'est dans la région d'Outaouais. Je crois, par contre, qu'on peut visionner tout ça par Zoom.
Ouh.
Il faudra aller faire un petit tour sur le site Internet du gouvernement du Québec.
Parfait.
Donc, leur page.
Tout à fait, parce que si vous allez faire une recherche journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, vous allez tout trouver ça. Entre autres, il y a des capsules qui ont été produites qui couvrent des sujets pertinent comme la réticence à demander de l'aide, la maltraitance psychologique, la maltraitance physique, la maltraitance financière et le repérage des situations de maltraitance. Alors, tout ça va permettre une plus grande sensibilisation du public à cette situation-là.
Tout voilà. À fait. Et avant de se quitter, François, je voulais souligner... la série À propos d'Antoine, écrite par Kathleen Rouleau, qui a fait l'objet d'une interview ici.
Au Gémeaux.
Voilà, le rôle d'Antoine. Antoine Parent-Bédard, en fait, qui joue son propre rôle, est nominé.
Et nominé au Gémeaux. Ben là,
c'est
on va suivre ça, on espère. Ben oui, ça fait plaisir. Esther, merci beaucoup pour toute la saison.